Les deux sujets d'enseignement qui étaient mis ensemble, c'était la culpabilité chronique et l'anxiété. Donc ce sont deux choses différentes, bien sûr, vous le savez, mais c'est vrai qu'elles peuvent aller ensemble. Alors, alors, bon, donc, culpabilité, si on ne rajoute pas chronique, d'abord, la culpabilité, c'est quelque chose de sain qui nous permet de vivre en société. Et le meilleur exemple, c'est le travail que font les Dakota, les Lakota, les Indiens Lakota, qui ont une façon très saine de travailler avec la culpabilité. C'est-à-dire que quand la personne est coupable, d'abord, bon, et ça l'aide à sortir de cette culpabilité. Alors voilà. Donc, on parle de justice restauratrice, réparatrice, qui va vraiment réparer le mal qui a été fait dans le cœur des victimes ou de la victime ou dans le cœur du coupable. Si, alors, donc, c'est à l'opposé de la justice pénale classique qu'on vit dans les tribunaux occidentaux. Alors, donc, chez les Lakota, ce qui se passe, c'est que la victime ou sa famille, dans cette justice réparatrice, restauratrice, est engagée dans un dialogue, dans l'écoute. Si bien que le coupable parle aux victimes. Donc il faut qu'il n'ait plus d'esprit de vengeance pour pouvoir leur parler, ça c'est sûr, il y a tout un travail. Mais il y a une notion d'amendement face à la peine et elle n'est plus aussi lourde à porter pour le coupable. Donc ça l'aide à mieux vivre cette culpabilité qui va rester quand même. Ça lui permet de retrouver du respect, de la dignité, parce que c'est ça qu'il a perdu. Il peut passer à l'aveu et il apprend de son erreur. Il peut se désidentifier du rôle d'assassin ou de malfaiteur et trouver la réconciliation. C'est ça qui est important. Ça arrête la déshumanisation de l'individu, qu'il soit victime ou coupable. Et cette déshumanisation se construit sur des règles arbitraires, pétrifiées par des propagandes. Alors, il y a un très bon exemple qu'on nous a donné. C'était l'histoire d'un professeur, c'est une maîtresse, c'est une vraie histoire, hein, qui a cherché à faire vivre aux enfants le sens de culpabilité et le sens de coupable ou de vrai ou faux, de juste ou injuste, de tout ça. Donc il a dit un jour, les yeux bleus, vous allez sur la droite, et les yeux marrons, vous allez à gauche. Et il a dit, les enfants aux yeux bleus sont supérieurs. Et ils ont passé la journée avec ça. Et le lendemain, la maîtresse a changé. Elle a dit, maintenant, c'est les yeux marrons qui sont supérieurs et les yeux bleus sont inférieurs. Et donc, ça a créé chez l'enfant une compréhension que c'est aléatoire et c'est injuste. Et que ça n'a rien à voir. Et ça, il paraît que ça a fait des changements extraordinaires chez les enfants. Donc la réparation peut naître de la conscience d'une vérité. Et ça, les enfants, ils ont compris. Ils ont vu cette vérité, que ça n'a rien à voir avec la couleur des yeux ou la couleur de la peau. Exactement, exact, tout ça. Au Canada, c'est un programme qui s'appelle Quest, avec un groupe de parole en prison, Community Correction pour les jeunes délinquants. En Belgique et en France, il y a aussi Stéphane Jacquot. En 2014, il a fondé une association, réforme pénale, etc. Donc c'est quelque chose qui peut essaimer quelque chose de positif dans la société. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, le coupable chez les Lakota, on leur donne quelque chose à faire, on leur donne quelque chose des tâches difficiles, ingrates, on leur demande de faire certaines choses, il faut qu'ils le fassent. Mais ce qui se passe chez les Lakota, c'est que parfois, les victimes finissent par dialoguer avec le coupable, chercher à le comprendre et l'accueillir chez eux. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans la même maison, il vit à l'extérieur, alors que la famille est dans la hutte, mais quand même, il fait partie du groupe familial, et petit à petit, il va s'insérer comme ça. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire, ce que font les Lakota. Et je trouvais que c'était une façon très saine de travailler avec la culpabilité, qui peut devenir chronique, justement, quand on s'identifie à être l'assassin ou la personne qui a fait du mal et qui donc ne pourra jamais sortir de cette façon d'être. Voilà. Donc, c'est le côté sain. Donc, maintenant, on va parler de la culpabilité malsaine, hein, et c'est vu un peu comme une adduction aux causes de la souffrance. C'est-à-dire que quand c'est malsain, on est addict. Alors, je vais vous expliquer comment j'arrive à ça, parce que là, ce n'est pas clair, bien sûr. Donc, dans l'enfance, par exemple, l'amour du parent est essentiel, même si le parent blesse. Et d'ailleurs, on l'a vu avec des singes. On a mis des singes dans une cage, un singe différent dans une cage différente. Avec le premier singe avait une maman singe, une vraie. Le deuxième avait une fourrure de maman singe avec son odeur. Le troisième avait une représentation de maman singe, mais sans fourrure, sans odeur, ni rien, juste un bâton ou quelque chose, ou un pylône. Le troisième avait une représentation qui était c'est une représentation d'un singe empaillé, mais on lui a mis des fils de fer barbelés autour. Et le bébé singe va aller s'accrocher au fil de fer. Même si ça fait mal, il y va. Parce qu'il veut l'amour maternel. C'est pour comprendre la force du besoin, le besoin intense de l'enfant et du petit dans n'importe quel groupe, espèce. L'amour du parent est essentiel, même si quand il y va aux parents, il va se faire donner une raclée, il va être blessé, il va être brutalisé et tout ce qui va avec. Donc, alors en venir à comprendre pourquoi je dis que c'est une addiction aux causes de la souffrance, parce que finalement, l'enfant qui apprend que pour avoir l'amour, il faut trimer, il faut souffrir, tout va avec. Eh bien, finalement, il va retourner dans des situations qui vont le détruire ou lui faire du mal parce qu'il associe l'amour avec ça. Et ça, c'est une addiction dans ce sens que plus il en veut, plus il va chercher à ce que la souffrance soit plus grande. Donc l'addiction, comment elle se construit? Au début, c'est une sensation agréable. Quand on prend quelque chose comme de la drogue ou de l'alcool, qui nous incite à rechercher et à apprendre encore et encore ce qui a produit cette sensation agréable. Donc on finit par en prendre trop, ça s'émousse, et plus la sensation de plaisir s'émousse, plus on en veut. C'est ça qui mène à cette addiction malsaine. Et même si cette addiction malsaine nous mène à finir par être désagréable, là, par exemple, on a trop bu, le lendemain, on a une gueule de bois, on a mal à la tête, et on vomit, on a mal au foie et tout, et on recommence. Et donc, on continue à désirer ce qui nous a donné du plaisir au début. Et c'est la même chose donc pour l'enfance, pour l'enfant. C'est ça le malheur. C'est pour ça que je donne ce parallèle. Les neurosciences ont montré que les réseaux du cerveau associés au plaisir ne sont pas les mêmes que ceux qui sont associés au désir. Ce qui fait que, à force de répétition, on peut renforcer le réseau lié au désir, au point de vouloir ce qui a cessé d'être agréable et même nous fait souffrir. Voilà, c'est comme j'avais dit. C'est grosso modo la définition de l'addiction. Même si on ne veut pas souffrir, on ne peut pas s'empêcher de retomber dans des situations qui nous font souffrir. Et quand on parle de culpabilité chronique, c'est là où je vois un parallèle. Alors, Eckhart Tolle est magnifique, il rajoute sur ce sujet que quand l'ego échoue dans ses entreprises narcissiques, pour continuer à exister, il se rabat sur un plan B, en se construisant un corps de souffrance. Une stratégie alternative pour renforcer son identité. Dans le registre, cette fois-ci, de la victimisation. C'est-à-dire qu'on tombe dans la victimisation, le corps de souffrance. C'est une stratégie alternative où on cherche à apaiser ce désir. L'ego peut ainsi survivre en se nourrissant de plaintes et de récriminations. Voilà, on a tout vu. On a compris ce qui se passe.
Donc c'est une stratégie alternative.
Oui, c'est un plan B. Quand l'ego échoue dans ses entreprises narcissiques, c'est-à-dire que l'ego n'arrive plus à avoir l'amour du parent ou même la violence du parent ou quoi que ce soit, il n'y a plus de réponse. Peut-être que le parent est mort, ou peut-être qu'il a disparu, ou il ne vient pas suffisamment. Et finalement, nous,
on se pose avec
comme on est addict, on cherche un autre plan, une autre façon de revivre tous les jours, quand on en a besoin, cette chose qui nous a, auquel on est drogué, auquel on est accro. Si on veut l'amour et qu'on est accro à la violence, on va chercher la violence pour avoir l'amour. Ça a du sens ? Ça va ?
Oui.
Donc si la violence n'est plus là, que la personne n'est plus là pour nous donner ça, on prend un plan B et on se construit un corps de souffrance qui, lui, va générer suffisamment de victimisation pour qu'on puisse survivre en se nourrissant de plaintes et de récriminations.
Oui, victimisation, c'est-à-dire qu'on se pose en victime,
ça ? Oui, oui, oui. Et on ne cherche pas à s'en sortir, on ne veut pas.
On se pose en victime et on continue dans le même
système. Ah ben oui, puisque il n'y a que comme ça qu'on a été nourri.
Et oui.
Alors, je veux retourner donc à l'attachement à un parent, parce que John Bowlby, c'est un psychologue, philosophe aussi, surtout psychologue, des années 50. Et la théorie de l'attachement du bébé, c'est lui qui l'a fondée. Une partie de là. Le bébé préverbal, dit-il, s'oriente vers la personne qui le sécurise pour rechercher et maintenir une proximité protectrice. Ce système d'attachement imprégné de notre mémoire biologique, ça va aussi loin que ça, se réveille en cas d'alerte. C'est-à-dire que la personne qui le sécurise, c'est pas forcément un parent. Et si le parent n'est plus là ou s'il est manquant, ça peut être aussi une divinité. Ça peut être quelque chose qu'on se fabrique. Donc ça peut nous entraîner l'enfant à croire en un être invisible. Ça entraîne, disent-ils, des changements neurobiologiques. Et on a vu que chez les croyants, la religion, justement, devient un facteur de résilience. Donc, selon le mode d'attachement qui le relie à ses parents, l'enfant aimera de manière sécure ou craintive ou détachée dans toute sa vie, à moins qu'il répare cette blessure.
Il reproduit lui-même,
c'est exactement. Ça. Ouais. Il va chercher à revivre ce qu'il a vécu avec le parent. Et si le parent ne se souciait pas de l'enfant et s'en fichait, dans ce cas-là, l'enfant ne sait pas aimer. Il reste détaché des êtres avec qui il cherche à vivre l'amour. Ouais. Mais il ne sait pas comment faire. C'est engrammé. C'est ça qui est. C'est une mémoire biologique. Ça fait peur, ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on retourne toujours dans les mêmes souffrances, encore et encore et encore, c'est réactivé. Bien sûr, elles sont moindres si on a fait un travail sur soi, mais elles sont encore là. Et on reste encore très vulnérable. Et il faut se protéger, si c'est ça. Il faut se protéger. Il ne faut pas mettre la tête dans la gueule du lion.
Et pour ça, il faut avoir un certain recul.
Oui, soi-même. Exactement, un certain discernement.
Sinon, on est dedans, on ne se rend pas compte.
Exactement, les gens se jettent dedans.
Et oui. Si on a toujours appris à mettre la tête dans la gueule du lion,
ben voilà, ben on continue.
Ouais.
Et si on ne veut plus le faire, et ben on se sent coupable.
Exactement.
L'enfant, si l'enfant n'a connu aucun attachement sécurisant, son cerveau peut être fortement altéré. C'est Boris Cyrulnik qui dit ça. Les synapses engourdies ne se connectent pas. Et le lobe préfrontal ne peut plus inhiber l'amygdale rhinencéphalique, c'est-à-dire le substrat neurologique des émotions intenses, comme la rage ou la frayeur, la terreur. Cela mène à quoi ? Eh bien, quand l'enfant qui a grandi sent de la rage ou de la terreur, la seule chose qu'il veut faire, c'est l'agressivité.
Oui.
C'est compréhensible.
Ça, c'est sûr.
Il ne voit pas autre chose. Donc, il y a une neuropsychiatre, une pédopsychiatre qui a fait un enseignement... d'une heure et demie sur Internet. Si je retrouve, je vous l'enverrai. C'est exceptionnel. Elle parle de tous les dégâts qui se font sur le cerveau du petit avant l'âge de 2-3 ans. C'est une catastrophe. Et ça, on ne le savait jamais avant. Alors, on parle de culpabilité chronique. Hein, on voit que ça se déchaîne et on n'arrive pas à couper le lien, à arrêter le... Parce que c'est engrammé dans notre cerveau, tout ça. Et donc, on ne sait pas comment s'en défaire. Oui.
Puis on voudrait changer. On a toujours espoir que le lion va changer.
Exactement.
Et le lion est toujours...
ouais. Donc... c'est là où il faut travailler avec l'anxiété et l'angoisse qui viennent justement de cette addiction qui finalement ne nous satisfait pas. Quand on devient adulte, on comprend ça, c'est une évidence. George Eliot, c'était cette femme... trans, qui disait « La tâche importante du progrès du monde ne saurait attendre d'être accomplie par des hommes parfaits. » C'est-à-dire qu'on ne sera jamais parfait. Il y a toujours un hic. Mais c'est ça. La tâche importante du progrès du monde, elle est à faire et maintenant. Enfin, comme avec ce qu'on a.
Oui.
Alors, pour parler de donc cet autre sujet sur l'enseignement, c'était l'anxiété, c'est ça ?
Oui.
L'anxiété. Donc, c'est un sujet qui va avec, mais je l'ai écrit un peu à part aussi quand même. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que notre cerveau cherche à donner du sens. Et ça, qu'on ait été qu'on ait eu un attachement positif ou négatif, on cherche à donner du sens à ce qu'on a vécu. Et le vide de sens de nos sociétés européennes actuelles est source de stress et d'anxiété, et même d'angoisse. C'est là où on arrive à cette anxiété généralisée, je dirais, qu'on trouve chez beaucoup de personnes.
Oui.
Et j'aimerais vous lire quelque chose sur les aborigènes. Alors, qui est assez étonnante. Et je me mets des notations pour être au bon endroit. Et puis après, je ne le trouve pas. C'est pour ça que... Oui, voilà, c'était... Pour les aborigènes en Australie, on mobilise le corps indigène. Celui qui perçoit le monde au plus près, avec sa conscience perceptive. L'un et l'autre, quand tout va bien, s'accordent harmonieusement avec le corps organique. Vivre avec cette harmonie chevillée au corps et à l'âme, ce n'est plus vivre comme avant dans l'angoisse du temps qui file, à l'image du sablier. C'est-à-dire que le primitif, il connaît ce privilège propre au prince. Il dispose de chaque minute, de chaque seconde, et sans avoir à opérer un décompte. Être dans l'immanence, c'est-à-dire être dans le moment présent, constamment, a toujours été sa règle chez l'aborigène. Le docteur du corps arc-en-ciel, il l'appelle comme ça, entretient ce corps avec des danses, des chants, des peintures. Voilà. Donc, l'angoisse et l'anxiété de nos sociétés modernes, ce sens de vide de sens, les aborigènes, eh bien, en vivant dans le moment présent, ils n'ont plus tout ça. Ils n'ont plus l'angoisse. Hein, donc, le fait d'apprendre la pleine conscience, la méditation et toutes ces pratiques, va aider, justement. Donc, cette anxiété, on peut aussi la faire décroître dans notre société occidentale avec une direction bien nette, où on trouve un sens à notre vie. Ça me rappelle cette histoire qu'un psychothérapeute racontait. Il disait qu'il y avait un monsieur qui était venu voir ce psy et qui se plaignait, qui disait « Oh, c'est horrible !» C'est horrible, 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 j'ai perdu ma femme et je ne pourrai jamais m'en remettre, je ressasse toujours la même chose, je pense à elle, elle est toujours avec moi et finalement je souffre énormément parce que je me rends compte qu'elle n'est plus là, etc. Et vraiment, je ne trouve pas de sens à ma vie. Ça s'est éteint avec elle. J'ai tout perdu. Et le psychothérapeute lui a dit, si vous aviez été la personne mourante d'abord, et si c'est elle qui avait survécu, est-ce qu'elle aurait pu survivre comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant? Et il a dit non, jamais. Alors le psychothérapeute lui a dit, voyez, c'est pour ça qu'elle est partie avant. Et là, ça lui a donné un sens à sa vie, que finalement, c'était à lui de rester et d'apprendre à vivre sans elle. Mais elle a gardé dans son cœur. C'est beau comme histoire.
C'est beau. Ouais.
Donc, ce sens, c'est très important de donner du sens à notre vie, mais quel que soit ce qu'on a vécu, c'est ça. Et souvent, ce sens accueille des croyances liées à la spiritualité. C'est là qu'on part dans des domaines beaucoup plus subtils. Croire en quelqu'un qui a commencé tout ça, il nous protège d'un manque de dessein, oui. C'est-à-dire, si on croit que quelqu'un a commencé la vie sur Terre, que quelqu'un a commencé le monde, qu'il y a eu le Big Bang, il y a eu tout ça, ça donne, c'est sécurisant pour beaucoup de gens. Et finalement, la spiritualité est quelque chose de très sécurisant.
Oui. Oui.
Les gens peuvent facilement tomber dans ces croyances parce que ça les aide à trouver un sens à leur vie.
Oui.
Une autre façon de se sécuriser face à cette angoisse, cette anxiété, c'est de trouver, d'avoir ensemble des gestes, des mots pour expliquer quelque chose, pour parler de quelque chose. Des vêtements spéciaux. Alors, il y en a qui mettent des toges ou un foulard spécial. Chez les Juifs, ils ont ça. Ils ont aussi... ils ont les tresses qui tombent sur le côté, ils ont la kippa, il y a des tas de signes, hein. Des œuvres d'art, des odeurs d'encens, en Inde on met de l'encens, ouais. c'est il y a des chants, des musiques, des kirtans, tout ça, ça s'appelle comme ça, et ça libère des canaux sacrés qui permettent à l'être humain de mettre en scène un monde métaphysique. Parce qu'il est capable de faire ça. Et ce monde métaphysique lui permet de s'élever au-dessus de la vie quotidienne. Et donc au-dessus de la bêtise de se dire « qu'est-ce que je fous ici ? Je suis bon à rien je trouve pas de sens à ma vie, etc. » Non, là, on s'élève au-dessus de soi. Hein, on se hisse au-dessus de soi. Et il y a beaucoup de choses aussi, des objets qu'on peut avoir qui sont particuliers. Ils symbolisent l'accès à celui ou celle qui nous protège, créant un sentiment d'appartenance. Donc, c'est là où on peut revenir aux parents. Et pour certains, le parent a été un élément protecteur et ils vont choisir ce qu'avait le parent, ce que faisait le parent et tout ça. Mais pour d'autres, ça va être totalement l'opposé. Quand on se rend compte qu'on a été complètement happé par un parent, finalement, on en revient à une haine énorme où on cherche le contraire, à s'en éloigner. Donc, ce qui nous aide, c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe. C'est la familiarité de quelque chose qu'on refait encore et encore et encore. Ou qu'un groupe se réunisse toutes les semaines, une fois par semaine, ou une fois par an, etc. Et ça crée un cycle. Et ce sont les cycles qui nous rassurent. Comme le cycle des saisons, le cycle des règles, le cycle des naissances, et tout ça. Ça crée aussi un certain sens de fraternité. On est avec des frères, des sœurs. Et ça guérit l'angoisse du vide et du non-sens de la mort. Parce que c'est surtout ça qui peut créer l'angoisse. Donc l'identité du groupe finit par se substituer à l'identité personnelle. C'est-à-dire que finalement, les gens préfèrent beaucoup, pas tout le monde, beaucoup de personnes préfèrent se mettre en groupe et faire quelque chose ensemble. Et ça donne du sens à leur vie. Il y en a d'autres, c'est le contraire, parce qu'ils ont connu ça et ça a été horrible. Donc, savoir sur quel camp vous vous basez, sur quel vécu. Mais l'identité d'un groupe, elle existe quand même quand on se dit d'un même pays ou d'une
même culture,
une même strate sociale ou une même tout. Et quand on trouve des personnes qui reflètent un peu ce qui nous intéresse, ce qu'on recherche, on a tendance à être à l'aise, se sentir bien, ça apporte un apaisement émotionnel, une disparition des angoisses, du tissage de liens, la solidarisation à un groupe ou une personne, un binôme, moralisation, donc il y a des codes moraux aussi qui vont là-dedans. Et si tu suis ces codes, tu fais partie de ce groupe. Si tu ne suis pas de ce code, si les personnes à l'extérieur du groupe ne suivent pas ce code, ce sont des étrangers. Et ça se voit dans les villages même. C'est très fort dans les villages. Les gens qui viennent du village d'à côté, ce sont ceux qui ont des becs de lièvre, qui sont tarés, parce que c'est le village d'à côté. N'empêche que ce n'est pas vrai. Mais moi, je l'ai vu en Italie, dans un village où je vivais. C'était étonnant, juste le village d'à côté. Quant à nous, moi, la Française avec mon ami américain, quand on est arrivé dans ce village, alors là, c'était la zizanie. Alors, c'était encore pire. Il y a la moitié du village, ils étaient 3 000 habitants, ils étaient. Là, 1 500 habitants étaient pour les étrangers qui étaient venus d'un autre pays. Et l'autre moitié était contre.
Comme les élections.
Ben voilà, exactement. Contre. Voilà, on retrouve ça. Et en Amérique, c'est encore pire. Exactement. Donc, comprendre que finalement, l'anxiété et l'angoisse, on peut facilement la faire décroître de la sorte. Mais ce sont toutes, pour moi, c'est un peu des substituts. Moi, ça ne me satisfait pas. J'appelle ça le mécontentement divin. Et c'est là où... Je vous en ai peut-être déjà parlé. Hawkins, ce monsieur
Stéphane.
Qui a...
Comment il s'appelle ?
Stéphane Hawkins. À la fin de sa vie, ça m'a choquée, il a dit « il n'y a pas de Dieu ». D'où la, pour moi, quand il disait ça, je sens la futilité de la vie humaine. S'il n'y a pas de Dieu, ses exploits, les exploits de l'humain, c'est magnifique quand on fait la méditation de la grande balle de mérite. Mais c'est ça, c'est quelque chose de magnifique. Et si on dit qu'il n'y a pas de Dieu, comment un acte méritoire ou un amour ou une gentillesse pourrait avoir une valeur ou un sens durable si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas dans une entité qui nous a créés ou dans quelque chose qui existe autre que n'être que de un être qui va qui naît et qui mange, qui boit, qui dort et puis qui va mourir et puis qui a aucune trace et qui laisse aucune trace et qui n'a aucune importance et c'est comme ça pendant des milliers d'années. Pour moi, c'est difficile. Ça peut créer une crise existentielle. Mais l'autre façon de voir les choses, c'est le bouddhisme fait ça, par exemple, une existence de conscience qui valorise les êtres et leurs actes méritoires. Et ça continue d'exister pour l'éternité. Et ça fait du bien, ça fait un baume au cœur. C'est ça. Donc, on ne connaît pas les réponses, mais on sent dans son âme et conscience que de croire en quelque chose de bon, ça fait du bien.
Oui, ça aide.
Ça aide.
Ça aide.
Et que si on voit les choses comme Hawkins, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'être créateur, il n'y a pas de beauté à garder dans son cœur. Enfin, je ne sais pas s'il disait ça, mais... c'est difficile à accepter. Ouais. Bon. Alors, je voulais parler d'une dernière chose. Cette appartenance, ce sens d'appartenance, il est programmé dans nos neurones. Dans notre cerveau, quand on est né. On appelle ça les neurones miroirs. Hein, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 90. Et il s'agit, avec les neurones miroirs, on en a tous quand on est né, de voir et de faire comme la personne qu'on voit. Et alors, on va à côté de cette personne et puis on fait comme elle. Donc, si le papa, il a un marteau, donc on va prendre un petit marteau et puis on va faire pareil. Hein? Et on fait tous comme papa ou comme maman, etc., etc. Donc, mais ce qui est étonnant, c'est que ces neurones miroirs, ils nous permettent aussi d'imaginer des apprentissages. Des voies pour des choses qu'on peut faire pour apprendre. On peut le faire par l'imagination aussi. Donc, c'est exceptionnel. Et malheureusement, on appelle ça le désir mimétique. Il s'estompe en vieillissant.
Ah oui.
Je ne le savais pas.
Moi non plus.
Il est très important c'est le petit enfant. Pour qu'il apprenne, pour qu'il fasse comme, etc. Mais après, en vieillissant, le lobe préfrontal commence à inhiber cette fonction. Okay. Et donc, on sait moins apprendre en faisant comme les autres plus tard, avec l'âge. Et c'est là où, pour moi, je rajoutais cet aspect que face à l'anxiété, l'angoisse et même la culpabilité chronique, on peut très bien apprendre par mimétisme, en voyant et en écoutant des maîtres, des personnes qui enseignent et qui nous donnent une autre voie.
Bien sûr. Qui nous ouvre l'esprit, surtout.
Enfin, nous ouvre l'esprit, l'âme, qui donne une vision, qui donne...
Voilà. Qui montre autre chose.
Enfin, oui.
Ça, c'est sûr.
Oui. Et je me demandais même si il y a des grands maîtres en Inde, Mahananda Mahi, Shivananda, qui, justement, avait cette capacité, Ramakrishna aussi, et puis celui qui a été muet pendant des années, comment il s'appelle Eh bien, ces grands maîtres, les personnes s'asseyaient autour, mère aussi, Sri Aurobindo aussi, et le maître regarder chaque personne ou certaines personnes. Et à ce moment-là, la personne, par les neurones miroirs, je le sens que c'est comme ça, mais je l'ai lu nulle part et c'est peut-être pas vrai, hein, finit par laisser imbiber son être de ce qui se passe dans le maître. C'est bien que la personne apprend par osmose, si vous voulez. Rien qu'en étant en présence de l'être.
Une espèce d'osmose énergétique.
Oui, c'est ça. Bon, moi, je ne l'ai jamais vécu, parce que je n'ai jamais vu de grand maître comme ça.
Mère, elle enseignait ça, je ne savais pas.
Oui. Et donc, très âgée, à l'âge de 90 ans, elle se mettait sur son balcon, là. Et il y avait devant elle en bas 1000 personnes. Elle sortait à la fin de sa vie une fois par an. Hein. Et on voit un film où on voit mère qui arrive et qui se met à la balustrade et qui regarde tous les gens, un par un. C'est étonnant. Et il paraît que son regard était perçant et quand on était regardé par elle, on était transformé. On oubliait tous ses problèmes, tous ses ennuis. Et
c'est comme le pape ou le roi d'Angleterre, enfin, tous les gens comme ça qui ont une aura.
C'est ça, oui. Voilà. Oui, qui ont une aura.
C'est Amma.
Amma.
Ouais. Ça fait penser à Amma.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que finalement, vous voyez, il y a des tas de moyens pour sortir de la culpabilité chronique, l'anxiété et l'angoisse. Et que ces phénomènes viennent finalement d'une enfance peut-être difficile, où on a mal appris. Et après, on continue à reproduire. C'est comme de la drogue. Il faut se nettoyer. Merci.
Merci à toi.